Le 5 septembre débarqua à Stanleyville le chef de la rébellion de l'Est, Christophe Beignet. Il devint le jour même président de la République populaire du Congo.
« Comment ça va ? »
demanda-t-il en me rencontrant. « Très bien, merci, monsieur le président. »«
Depuis quand êtes-vous à Stan ?»«
Depuis le 1er août. »«
Et vous vous plaisez ?»«
Pourquoi pas ?» Beignet se joignit à nos palabres. Comme les autres rebelles, il se révéla d'une éloquence peu ordinaire. Quand le soir tombait, j'en venais à oublier l'épuisement. La parole circulait, et lorsqu'elle me revenait, je m'en emparais corps et âme jusqu'au moment où je la lançais comme un ballon sur qui voulait l'attraper. Ces joutes verbales duraient jusqu'au moment où tout le monde sombrait dans le sommeil. Cet instant m'échappait presque toujours, et je me réveillais par terre avec les autres. Comme n'importe qui en pareille circonstance, j'étais guettée par le syndrome de Stockholm. Ce qui m'empêcha d'y tomber, c'est que malgré mes efforts constants, les rebelles tuèrent quelques otages, parfois sous mes yeux. Je m'appliquais alors à ne pas regarder les corps ensanglantés. Si les rebelles découvraient que le consul de Belgique s'évanouissait à la vue du sang, je perdais toute crédibilité, j'étais un homme fini. Gbeignet remarqua ce manège.
« Monsieur le consul, pourquoi ne regardez-vous pas le cadavre de votre ressortissant ?»«
Par respect pour son âme, monsieur le président. » Réponse qui suscita de l'intérêt. Chaque fois qu'un otage était tué, je devais lutter contre l'horreur et le découragement, argumenter avec moi-même en me défendant de devenir mon propre ennemi. Si je ne gardais pas un moral d'acier, je ne pourrais pas prolonger ma défense par la parole. À chacun sa technique pour ne pas se décourager. La mienne consistait à refuser qu'il y ait un autre monde. Tout se passait ici, et je n'avais jamais eu d'autre vie. Si je me mettais à penser à ma famille, j'étais perdue. Parfois, quand je baissais la garde, j'étais assaillie de songeries d'une douceur effroyable, telles que le parfum des cheveux de Daniel. Il me fallait les chasser aussitôt, sauf à sombrer dans la fragilité de la nostalgie. On a beaucoup simplifié le syndrome de Stockholm. Il n'y a pas que l'amour. Dès qu'un gardien baisse d'un ton en gueulant, dès qu'un cuistot distrait vous verse une louche de rabe, dès que vous recevez un regard humain, dès que vous êtes écouté en adversaire digne de ce nom, vous êtes envahi d'une bouffée de gratitude irrépressible. Échapper au mauvais traitement de la veille suffit à vous convaincre que vous êtes un élu. Ce n'est pas vous qui vous éprenez, c'est vous qui vous sentez curieusement chéri. Il s'agit d'une variante de l'érotomanie qui peut se compliquer d'un masochisme paradoxal. L'otage qui tombe amoureux est celui à qui la conviction d'être aimé inspire un trouble maniaque. Je ne suis jamais tombée amoureuse de mes geôliers, mais j'ai dû me défendre d'élan de reconnaissance quand, lors des palabres, un rebelle accueillait mes paroles avec feu. Puisque ce nouvel État se voulait communiste, j'essayais de me montrer plus marxiste que Marx. La propriété, c'est le vol. Si vous prenez possession de la ville, vous la volez.
Nous ne prenons pas possession, nous l'occupons, c'est très différent.
Comment expliquez-vous qu'il soit légitime de nous garder en otage ?
La révolution n'est pas un dîner de gala.
Pour l'image de marque d'un jeune pays qui se veut exemplaire, la méthode me paraît douteuse.
Si vous suiviez l'affaire en lisant le journal à Bruxelles, c'est à nous qu'irait votre sympathie.
Ce dernier argument était confondant. Je tentais de me persuader qu'il était faux. Je n'y arrivais pas complètement. Comme quoi l'éloquence des rebelles avait toujours une longueur d'avance. Je mangeais le plus souvent pendant les palabres. Bananes, cacahuètes, mohambé, sakasaka, tout me paraissait délicieux. Cette situation, loin de me couper l'appétit, me donnait encore plus faim qu'à l'ordinaire. La nourriture des otages provenait des réserves de boîtes de conserve de l'hôtel, heureusement colossales. Beaucoup s'en dégoûtèrent très vite. Pas moi. Je confesse avoir eu souvent ce genre d'échange avec certains compatriotes. Tu es déprimé, hein ?
Oh oui.
Tu n'as plus goût à rien. Tu perds l'appétit.
C'est ça.
Alors donne-moi ta boîte de raviolis. Manger à même la conserve ne me dérangeait pas. Plusieurs bébés naquirent à l'hôtel depuis le début de notre incarcération. À chaque fois, j'en fus aussi bouleversée que si j'étais le père. La plupart des meurtres d'otages se produisaient en l'absence des chefs. Je mettais donc tout en œuvre pour que ceux-ci s'éloignent le moins possible. Les jours de pluie, j'obtenais plus facilement que les palabres aient lieu dans le hall du palace-hôtel. Malheureusement, il faisait presque toujours très beau et l'on m'emmenait palabrer dehors, près du fleuve. Il pouvait arriver que je sois avertie d'une exécution imminente. J'accourais alors pour me mettre entre la victime et les bourreaux. Si l'on me demandait ce que je faisais là, je répondais « Mon métier. » «
Vous êtes bouclier humain ?»«
Je suis le négociateur. »
« Qui vous a donné ce titre ?»
Le président Gbenye.
Ce nom dissuadait les candidats au meurtre. Hélas, cette méthode connut des échecs. Rien n'est pire que d'assister à un assassinat sans pouvoir intervenir. J'appliquais la devise nietzschéenne, je détournais le regard, non pas par obédience au gai savoir, mais pour ne pas m'évanouir, provoquant toujours le questionnement dont j'ai déjà parlé. Il advint aussi que je découvre des cadavres d'otages plus très frais.
« Et vous les regardez ?»
remarquaient les rebelles. « Leur âme n'est plus là. » Traduction, le sang avait séché. Chaque nouveau mort signalait les limites de mon pouvoir de négociateur. Au-delà de l'horreur, j'en éprouvais de la culpabilité. Il me fallait alors parlementer avec moi-même. Tu ne peux pas être partout à la fois. Sans toi, tous les otages auraient été massacrés depuis le premier jour. À quoi je devais me faire violence pour ne pas répondre? Ça aurait été beaucoup mieux comme ça. Tant de souffrances et tant d'angoisses auraient été épargnées. Nos familles porteraient notre deuil au lieu de se ronger d'anxiété. Difficile alors de ne pas penser à Danielle, devenue veuve comme ma mère, presque au même âge. Mais non, cet univers parallèle n'existait pas. Il n'y avait pas d'arrière-monde, pas d'autre pays, pas d'autre ville et surtout pas d'autre personne. Entre les otages naquirent des amitiés étonnantes. Les Belges d'ici se connaissaient depuis longtemps et ne s'appréciaient pas forcément. Il fallut les mois de rétention dans le hall de l'hôtel pour qu'apparaissent certaines affinités. En fouillant dans les caves, l'un d'entre nous tomba sur un immense stock de vermouth. Nous aurions aimé le remonter à la surface pour le partager, mais nous avions à cœur de ne pas en donner à nos geôliers. L'information circula.
« Si votre morale descend en dessous de zéro, glissez-vous dans tel sous-sol et servez-vous. »
J'avais très envie d'en boire aussi. Et là, c'était trop dangereux. En cas de palabre, et celle-ci pouvait commencer n'importe quand, une haleine chargée m'aurait trahi.
Beaucoup d'otages avaient eu la présence d'esprit d'emporter des paquets de cartes. Le whist devint la principale activité. Certains Belges y jouaient sans aucune interruption. Ceux qui avaient des livres les prêtaient. Tout le monde regretta qu'il y en ait si peu. Début août, je pensais ne venir à Stanleyville que pour 3 semaines, aussi n'avais-je pris que 2 romans. Un roi sans divertissement de Giono et La pitié dangereuse de Zweig. Le dernier devint mon livre de chevet. Je l'économisais. Pourquoi cette histoire, si étrangère à ce que je vivais, me bouleversait-elle à ce point? Peut-être pour ce motif. Le président Gbenye me surprit en pleine relecture.
« Que lisez-vous, monsieur le consul ?»
Je lui montrai la couverture.
« La pitié dangereuse. Beau titre. »
Dit Gbenye. En effet.
« Rassurez-vous, le moment venu... Ne n'auront pas pitié. »
De tels propos ne rassuraient pas. Le moment venu, pensait-il à la même chose que moi? Quand j'imaginais des dénouements possibles, j'entrevoyais la solution probable d'un parachutage de l'armée belge. Je le souhaitais, autant que je le redoutais, car si cela se produisait, mes talents de Scheherazade ne suffiraient plus à éviter le bain de sang. Aux rebelles qui m'interrogeaient, je répondais que cette hypothèse ne pouvait être envisagée.
« Les Belges choisissent toujours la négociation, » répétais-je. « Comme vous ?»«
Oui, je suis représentatif. »«
Pourtant, votre gouvernement se tait. » »«
Je n'en sais rien, je n'ai pas de contact avec le ministère, mais n'oubliez pas qu'en tant que diplomate, je représente mon gouvernement. »«
Alors reconnaissez notre État. » »«
Je ne fais que cela. Malheureusement, ma parole ne suffit pas. »
C'est pourquoi nous vous gardons en otage.
C'est pourquoi je vous déconseille de nous tuer.
C'était reparti. J'avais l'impression d'être un mathématicien démontrant mille fois le même théorème de façon plus ou moins élégante. Parfois, un rebelle me demandait à brûle-pourpoint
« Qu'est-ce qui nous empêche de vous tuer là, tout de suite ?»
Je répondais « Cela donnerait une mauvaise image de votre jeune république. »
Ou « Vous perdriez un négociateur qui a plaisir à palabrer avec vous. »
Ou encore « Je suis votre mémoire vivante. Quand votre état sera reconnu, je pourrai raconter votre légende au monde entier. »
Tant que régnait la parole, je pouvais espérer m'en sortir. Combien de fois est-il arrivé que, sans un mot d'avertissement, un rebelle me mette en joue ? Dans ces cas-là, ce sont ses comparses qui m'ont sauvé.
« Attention, le président aime lui parler à celui-là. Tu crois qu'il voudra le tuer lui-même ? C'est possible !»
Un jour qu'un gamin de 12 ans me visait avec une kalachnikov, je lui servis cet argument. « Tu ne peux pas. Le président veut me tuer lui-même. » Il a abaissé l'arme, très contrarié. Comme des centaines d'enfants, il avait été recruté lors de la longue marche. Tous étaient convaincus d'être immunisés contre les balles. En les atteignant, elles se transformaient en gouttes d'eau et eux en Simba, lion en Swahili. Il était aussi dépenaillé que la horde des notons dans le souvenir de mes 6 ans. Une troupe loqueteuse a surgi, s'est saisie d'un fusil et entamé une partie de handball avec la calache comme ballon. Tout heureux d'avoir échappé aux gamins, je les regardais jouer et pensais à ma horde d'enfance qui guerroyait contre la faim, à cette enfance sauvage qui m'avait aguerrie. Et, me disais-je, me donnait la force d'être là, debout et vivant.